Bonjour à tous, bienvenue pour cette session Back from the Build qui va vous parler d'Azure Resource Manager. Donc, je m'appelle Stéphane Goudot, je suis architecte dans la division DX chez Microsoft France. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Julien. Bonjour Julien.
Salut Stéphane.
Donc Julien, consultant émérite chez Infinite Square. Et donc, Azure Resource Manager, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une réponse à une problématique qui existe depuis que la plateforme existe. La plateforme Azure permet de manipuler un grand ensemble de ressources, hein, des comptes de stockage, des machines virtuelles, des sites web, des bases SQL, Azure SQL Database. Et il devient rapidement complexe de manipuler un ensemble de ces ressources, par exemple lorsqu'on est amené à les déployer de façon récurrente ou lorsqu'on veut gérer des permissions relatives à cet ensemble de ressources. Bref, il y avait quelque part un manque, et bien ce manque aujourd'hui il est comblé, Julien, grâce à la notion de groupe de ressources, donc qui est une entité logique de gestion dans laquelle on va pouvoir intégrer de multiples ressources, qu'elles soient du même type ou non. Et ces ressources, elles vont pouvoir appartenir à plusieurs régions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les retrouver dans plusieurs data centers. Par contre, il y aura une contrainte, c'est que ces ressources, elles seront gérées par un seul Azure Resource Group Manager. L'appartenance à Resource Group Manager est totalement exclusive.
Okay.
Donc concrètement, un groupe de ressources, mais on va retrouver effectivement cette notion de container logique avec une base SQL, un website, des machines virtuelles. Et cette définition de groupe de ressources, elle va être complètement déclarative, donc ce qui permettra de pouvoir la réappliquer beaucoup plus facilement, donc de façon idempotente. Et non seulement on va gérer donc les ressources, leur configuration et leurs interdépendances respectives, mais en plus, on pourra gérer tout le cycle de vie de ces groupes de ressources. Donc une mise à jour ou un arrêt des ressources pourra être faite de façon unilatérale. Et on pourra également gérer la notion d'identité entre ces ressources, la notion de quota, de facturation. À terme, tout ça sera disponible directement dans cette notion de groupe de ressources. Mais plutôt que d'en parler longuement, Julien, je vais te céder la parole pour que tu nous montres concrètement comment on peut faire ça avec le nouveau portail Azure.
Tout à fait. Le nouveau portail Azure, donc, qui a été présenté à la Build début avril. Donc déjà, tu le disais, hein, les ressources groupes, ils arrivent pour nous permettre justement de grouper toutes nos ressources à l'intérieur. Quand on a déjà des données qui existaient sur nos souscriptions Azure avant la Build, évidemment, ces ressources groupes ont été créées pour nous. Donc si je vais ici sur mon portail, je vais pouvoir ici, plutôt que de parcourir mes sites web, mes bases de données, etc., etc., comme j'avais un petit peu l'habitude de le faire sur l'ancien portail, pouvoir faire un parcours par groupe de ressources. Donc je vais venir ici visualiser ces différents groupes. Là, j'en ai trois. J'en ai deux qui existaient déjà avant l'arrivée des ressources groupes et du nouveau portail, donc qui sont en gros bah, le service SQL dans mon data center Europe de l'Ouest et dans le data center Europe du Nord. Et si je vais voir dans un ressource groupe, je vais pouvoir voir toutes les ressources qui sont à l'intérieur. En l'occurrence, ici, je peux voir que j'ai deux sites web qui sont hébergés. Là, je suis dans le cadre d'un abonnement MSDN, donc on n'a pas encore les informations de facturation, mais je retrouverai ici, dans un autre cas, combien me coûtent les différents services qui sont dans ce groupe de ressources. Je pourrais voir des quotas, voir s'il y a des alertes sur les différents services. Et puis, bah, à tout moment, je vais pouvoir venir rajouter des ressources à l'intérieur, un nouveau site web, une nouvelle base de données, un nouveau service, ou alors supprimer un groupe de ressources entier, comme tu le disais, juste avant. Du coup, la démarche de création de service dans le portail Azure, elle va également changer un tout petit peu, puisqu'au lieu de venir créer un site web directement, je vais pouvoir venir l'associer à un ressource group. Donc on retrouve pour la création d'un site web des informations qu'on connaissait déjà avant, l'URL, est-ce qu'on veut faire du mode free, du mode partagé, etc. Ou alors, la notion de ressource groupe qui est ici. Donc je vais pouvoir soit mettre mon site web dans un groupe existant, soit venir créer un nouveau groupe de ressources, démo groupe MS, voilà. Je vais pouvoir valider la création de mon site, et puis après je pourrais venir créer une base de données à l'intérieur, je pourrais venir rajouter des éléments, un autre site web, etc. etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de changer un petit peu la vision qu'on a des services dans le portail Azure et d'apporter une notion de filtre supplémentaire, puisqu'avant, au final, le filtre, c'était la souscription. Aujourd'hui, on va être plus fin, on va aller sur le groupe de ressources et on va pouvoir, du coup, packager nos applications, dire bah, pour telle application cloud qui est composée de deux bases de données et de deux websites, bah, je vais tout isoler dans un groupe de ressources et puis on verra derrière qu'il y a d'autres fonctionnalités intéressantes dont tu vas nous parler.
Merci, Julien. C'est très clair. Et donc, cette solution déclarative d'Azure Resource Manager et de Resource Group, elle a un autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir la persister en JSON.
Tout à fait.
Donc, on va pouvoir manipuler des fichiers JSON correspondant à ces Resource Group. Ils vont être fondés sur un modèle baptisé Azure Template. Et ce modèle, évidemment, on va s'empresser de le manipuler avec Visual Studio. Donc 2013, dans la version, dans la RC Update 2, on a la possibilité d'utiliser un éditeur JSON pour faire évoluer cette configuration de Resource Group.
C'est exactement ça.
Et donc, une fois persistée cette information, on va pouvoir la gérer en configuration de code source, faire du DevOps, et puis simplifier l'orchestration, le déploiement et les retours sur une version antérieure. Donc, on a vu dans ta précédente démonstration la manipulation du Resource Group à travers le portail. Maintenant, tu vas nous montrer qu'on peut aller nettement plus loin avec PowerShell et puis Visual Studio 2013, tant qu'on y est.
Oui, c'est parti. Donc, j'ai préparé un petit script PowerShell pour l'occasion. Donc, effectivement, il y a des nouveaux outils qui ont été proposés là par Microsoft suite aux annonces qui ont été faites autour de l'Azure Resource Manager. On pouvait faire du PowerShell depuis pas mal de temps sur Azure. Là, on a un nouveau mode qui arrive qui va nous permettre d'avoir cette vue justement par groupe de ressources et plus par souscription. Donc, comment ça va se passer ? Première chose que je vais avoir à faire ici, c'est évidemment me connecter à ma souscription Windows Azure. Donc, je vais pouvoir ici me loguer à mon compte directement depuis mon script PowerShell. OK. Ensuite, pour activer justement le mode Azure Resource Manager, je vais avoir ici une commande Switch Azure Mode qui va me permettre de passer dans ce mode-là. C'est parti. Et la première chose que je vais pouvoir faire, c'est me connecter à la galerie de templates du portail Azure pour récupérer tous les templates qui sont proposés par Microsoft pour faire du déploiement. Donc les templates, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être des templates pour déployer des blogs WordPress, ça va être des templates pour déployer une infrastructure avec des web services plus du SQL Database, des web services plus du SQL Azure, etc. etc. Donc si je regarde ici comment ça se passe, je vais exécuter cette commandelette PowerShell. Et dans le résultat ici, voilà, ça met un tout petit peu de temps, je vais pouvoir voir ici tous les templates qui sont disponibles. Alors il y en a déjà pas mal, hein. Il y a des templates qui sont proposés par Microsoft et des templates qui sont proposés par des partenaires et éditeurs tiers. Et donc ici, je peux retrouver un premier template, par exemple, qui est donc proposé par Microsoft, qui est... si j'arrive à l'attraper, Microsoft Website SQL Database. Donc je vais venir copier son identité ici. Et je vais pouvoir venir obtenir plus d'informations à l'aide toujours de la commandelette get Azure Resource Group Gallery Template en lui passant le nom à la fin. OK. Et ici, je peux voir un résumé HTML de ce que va faire ce template. Donc notamment, je vais voir que dedans, il y a un site web Azure, qu'il y a la possibilité d'avoir avec une base de données SQL, que je vais pouvoir configurer le hosting plan, donc est-ce que je vais faire du mode gratuit, du mode partagé sur mon site web, etc. Une fois que j'ai identifié mon template, je vais pouvoir venir le sauvegarder sur mon disque dur pour récupérer le fameux fichier JSON dont tu nous parlais tout à l'heure. Donc ça, je vais le faire à l'aide de la commande Save Azure Resource Group Gallery Template, en lui passant toujours l'identité du template et le chemin vers lequel je veux sauvegarder mon template. Donc je vais exécuter cette ligne-là. Ça va venir me télécharger mon template ici. Hop, et je vais pouvoir venir l'ouvrir dans Visual Studio à l'aide du nouvel éditeur JSON qui arrive avec l'update 2 de Visual Studio 2013. Et si on analyse un petit peu ce template, on va pouvoir voir qu'il est composé de deux nœuds principaux. Un nœud qui va me permettre de définir les paramètres de mon template, donc c'est le premier qui est dans le fichier, mais c'est celui que je montrerai à la fin, et un nœud qui va définir les ressources qui sont définies en fait dans ce template et qui seront déployées dans mon groupe de ressources. Donc première chose qu'on peut voir ici, c'est qu'on va déployer un serveur SQL, on va déployer une base de données, donc on va faire appel au service database, ce sera une édition web, on va déployer ensuite un site web, donc on va avoir besoin de parler d'un hosting plan, des SKU, est-ce qu'on fait du gratuit, du partagé ou autre, le nom du site web en tant que tel, et tous les paramètres en fait, qui vont me permettre de créer mon environnement dans Azure. Ce qu'on peut voir aussi dans ce fichier, c'est qu'à plusieurs endroits, on utilise la notation parameters, avec entre parenthèses le nom d'un paramètre, justement pour paramétriser ce fichier, et puis faire en sorte qu'on puisse l'invoquer via PowerShell, sans avoir tout le temps le même nom du site, le même SKU ou autre. Et donc du coup, ces paramètres, ils sont définis en tête du fichier. Donc si je reviens ici, je vais pouvoir voir qu'il y a un paramètre sur le nom du site, sur le hosting plan, sur la location aussi, dans quel data center on va vouloir créer le ressource group, et ensuite dans quel data center on va vouloir déployer les ressources, hein, puisque tu nous disais tout à l'heure que le ressource group, on va le créer dans un data center, mais on peut très bien avoir un site web ensuite qui est en Europe de l'Est, du Nord, et un site web qui est en Europe de l'Ouest, au sein d'un même ressource group. Ça, c'est tout à fait envisageable. Bref, on va retrouver les différents paramètres, certains avec des valeurs par défaut, en général quand c'est des listes de valeurs. Et derrière, ces paramètres, on va les renseigner directement via PowerShell. Donc, comment ça se passe? Première chose que je vais devoir faire, c'est choisir le data center dans lequel je vais vouloir créer mes différentes ressources. Donc, pour ça, je vais pouvoir récupérer, grâce à une commandlet get Azure location, la liste des services proposés par Microsoft au niveau de Windows Azure, et surtout les data centers dans lesquels ils sont installés. Donc là, par exemple, je peux voir pour les sites web, à ce niveau-là, c'est installé dans à peu près tous les data centers. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici, l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest, je peux déployer du site web. Donc je retrouve comme ça tous les services. Une fois que j'ai choisi ma localisation, je vais pouvoir utiliser la commandlet qui est en fait le cœur du déploiement de mon groupe de ressources, donc New Azure Resource Group. Je vais l'appeler groupe démo 2. Je vais choisir de le déployer en Europe de l'Ouest. Donc là, ça veut dire que je crée le groupe de ressources en Europe de l'Ouest. Après, je peux mettre mes ressources où j'ai envie. Je vais lui donner le template sur lequel je veux me baser, donc celui que je viens de te montrer dans Visual Studio. Le nom du site web que j'ai envie de créer, on va l'appeler démo 2 site web. Le nom du hosting plan, démo 2 hosting plan. La localisation du site, donc là, j'ai créé mon groupe dans West Europe, je vais créer aussi mon site dans West Europe, donc là, je le mets dans le même data center. Je dis que je veux le mettre en mode free, je vais donner le nom du serveur SQL que je veux avoir. Par contre, le serveur SQL, je vais le mettre en Europe du Nord. Je peux faire ça, donc pourquoi, je ne sais pas pourquoi ici, mais je peux le faire, donc c'est intéressant de le voir. Et ensuite, je vais définir le nom de l'administrateur SQL, le nom de la base de données et un compte de stockage qui va permettre d'uploader ce template de déploiement et puis ensuite de faire le déploiement au niveau d'Azure. Donc, je vais exécuter tout ça. Hop, je vais juste renommer ma base de données ici, le serveur aussi, puisqu'il doit déjà exister celui-ci. Hop. Et c'est parti. Donc là, il y a un dernier paramètre qui est le mot de passe qui m'est automatiquement demandé par la console PowerShell, donc c'est le mot de passe pour la base de données SQL Database. Ok, et donc là, c'est parti. Alors, ça va prendre quelques minutes, c'est assez rapide. Donc là, je peux voir en live ce qui est en train de se passer. Donc, il a bien réussi à me créer le groupe de ressources, il est en train de me créer le template de déploiement, et puis après, il va tout simplement lancer le déploiement du site web et de la base de données. Et je vais retrouver également ces informations au niveau du portail. Donc, si je viens ici parcourir mes groupes de ressources, je vois que le groupe démo 2, il est arrivé à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà toutes les ressources qui sont dedans. Si je peux voir qu'il y a le site web qui vient d'être créé, la base de données va pas tarder à apparaître. Et j'aurai également toutes les notifications qui arriveront dans le portail une fois que le déploiement sera terminé. Donc voilà, tout a l'air de bien se passer. Donc, ça ne devrait pas tarder à se terminer. Et je devrais pouvoir récupérer toutes mes informations ici. La base de données est encore en cours de déploiement, mais elle va arriver.
D'accord. Très bien, Julien. Donc, on a bien compris l'intérêt. Là, en un seul appel, tu vas pouvoir effectivement gérer le cycle de vie complet de ton groupe de ressources. Alors, on peut aller encore plus loin dans le cas des machines virtuelles. Donc, lorsqu'on va vouloir que sur ces machines virtuelles, il y ait tel ou tel logiciel qui soit installé, telle ou telle configuration. Donc, on a plusieurs mécanismes d'extensibilité qui sont proposés nativement sur les machines virtuelles. Donc, il y a la notion de VM Agent qui est disponible depuis quelques temps. qui permet donc d'étendre les capacités d'interaction avec la VM. Il y a également dans Windows, avec l'évolution de PowerShell, l'arrivée du Windows Management Framework en version 5, donc qui va étendre ce que permettent déjà de faire les Desired State Configuration, DSC, de PowerShell V4, donc qui permettent là aussi d'avoir une vue déclarative. C'est très, très DevOps, hein, pouvoir appliquer de façon récurrente, idempotente, une déclaration plutôt que de scripter au kilomètre en PowerShell. Hein. On va gagner un peu de temps, on va pouvoir gérer tout ça en configuration de code source. Et puis il y a OneGet aussi qui a été annoncé récemment. Donc, qui va permettre de découvrir et installer des packages de façon silencieuse en s'appuyant dans un premier temps sur des repositories, les repositories chocolatées pour ceux qui connaissent. Donc, il y a une solution open source qui a justement pour finalité de partager sur le net des mécanismes d'installation de packages applicatifs. Et puis, évidemment, on a aussi la possibilité d'aller encore plus loin avec les solutions open source DevOps type Puppet, Chef, Ansible ou Salt. Alors, en ce qui concerne Puppet et Chef, elles sont directement activables par configuration de la VM depuis le portail Azure. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour de la question. Ton avis alors sur ces Azure Resource Manager, bon, je vois que tu maîtrises déjà le sujet, mais est-ce que tu vas t'en servir?
Alors, carrément, ouais. C'est vraiment intéressant, parce que là, c'est vrai que j'ai fait une démonstration en mode script pas à pas, etc. Mais on va vraiment pouvoir faire des scripts PowerShell complets pour déployer des environnements. Et du coup, là où je vois un réel intérêt, c'est quand on va avoir différents environnements, par exemple pour faire du dev, de la pré-prod et de la prod. Donc là, ça va nous permettre comme ça de créer des environnements un petit peu à la volée. C'est vrai que c'est des choses qu'on pouvait déjà faire avant avec les commandlets PowerShell. Mais là, ne serait-ce que de pouvoir dire, tiens, je vais supprimer un environnement en une ligne de commande, puisque je vais supprimer tout le ressource group d'un coup, par exemple mon infra de dev ou mon infra de pré-prod. C'est quand même super pratique et ça va nous permettre de gagner du temps au quotidien dans nos devs pour déployer, même derrière pour mettre en prod chez nos clients ou des choses comme ça. Il suffit de préparer un script PowerShell qui utilise l'Azure Resource Manager. Tout est paramétrisable et c'est facilement compréhensible au final. On envoie ça et puis voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Julien, et merci pour votre attention. Donc, n'hésitez pas, faites des recherches. Azure Resource Group Manager, c'est déjà documenté sur le net, sur le MSDN. Et puis, essayez, ça marche.
Ça marche bien, oui. Merci, Stéphane.
À bientôt.